Bonsoir, frères et sœurs et amis. Je vous invite, s'il vous plaît, pour ce soir, à prendre avec moi dans le livre de, dans l'Évangile de Marc, oui, au chapitre 16. Marc, chapitre 16, nous lirons ici, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frères et sœurs et amis, je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons condamnés, bien au contraire. Il va donc dire, avant de quitter cette terre, ces quelques dernières paroles où il va dire à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui l'ont appelé, il va leur dire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est celle qui est annoncée toutes les fois qu'on est réunis au nom du Seigneur Jésus. Et dans ce texte, nous venons de lire que celui qui croira à cette bonne nouvelle et qui va s'engager vis-à-vis de Dieu par rapport à cette bonne nouvelle sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru, celui qui n'aura pas accepté, celui qui n'aura pas accueilli, celui qui n'aura pas voulu s'engager par rapport à cette bonne nouvelle, eh bien, il restera, il sera condamné. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons sous la condamnation, mais que nous vivions l'expérience de la délivrance. Alléluia. Et en quoi consiste donc cette condamnation? Parce que la condamnation fait partie de cette bonne nouvelle. Et il nous faut parler de cette condamnation pour que nous comprenions pourquoi sommes-nous condamnés. Parce que à cause de cette condamnation, et cette condamnation conditionne la vie de tous les hommes depuis le début, depuis le commencement. Voilà. Et pour comprendre la mesure, le contenu de cette condamnation, il nous faut donc remonter au commencement. Je vous invite donc à ouvrir avec moi dans le premier livre, le livre de la Genèse. Nous voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, nous n'allons pas lire tout le chapitre 2, mais il faudrait lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 17, mais nous allons lire simplement les quelques premiers versets. Il dit, puis après donc la création, après avoir créé l'homme, il dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va en faire une recommandation toute particulière à l'homme. Verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel lui donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de vie, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs et amis, nous comprenons que dès le commencement, Dieu a toujours voulu, et il en sera toujours ainsi, faire de l'homme un être responsable de ses actes. Bien sûr, on pourrait dire, si Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'aurait jamais connu le péché, et par voie de conséquence, nous non plus. Mais Dieu a toujours voulu faire de l'homme un être responsable, un être qui soit en mesure de choisir et d'assumer la responsabilité de ses actes. Et là, dans ce jardin, Dieu va planter plusieurs arbres, et en particulier l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va donc dire à l'homme de ne point manger ce deuxième de son fruit, parce que le jour où il va en manger, il va mourir. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y a toujours ce choix que Dieu met devant l'homme. Il dira au peuple d'Israël, « Je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu a toujours voulu que l'homme choisisse la vie afin qu'il vive. Et c'est encore le désir de Dieu qu'il manifeste ce soir pour nous dire, choisis la vie afin que tu vives. Et Jésus dira, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Mais l'histoire, et la parole de Dieu en particulier, nous fait connaître que l'homme, au lieu de choisir l'arbre de la vie, il va choisir de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il va choisir de ne pas se laisser conduire par Dieu, mais de vouloir être conduit par lui-même, de vouloir gérer sa propre vie, et nous savons quel en est le résultat. Le résultat a été l'entrée du péché dans la vie de l'homme. La parole de Dieu nous dit au Genèse chapitre 3 que la femme prit du fruit de l'arbre, elle en mangea et elle en donna à son mari qui était à côté d'elle. Le verset 7 nous dit ceci, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Frères et sœurs, ceci est intervenu après que le diable ait séduit Adam et Ève. Le diable, il n'a qu'un seul objectif, c'est de détourner les hommes de la vie de Dieu, de détourner les hommes de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé en ce qui concerne Adam et Ève. Et c'est ainsi que l'ensemble de l'humanité a été détourné de Dieu. Et c'est ainsi que le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu. Mais nous voyons là que dans ce jardin, l'expression et la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu, parce que lorsque l'homme et la femme, après avoir mangé, ils vont réaliser l'entrée du péché dans leur vie, la condamnation qui va s'installer, il dit les yeux de l'un s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils ont cousu des feuilles de figuier et ils s'enfuirent des ceintures. Et lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu, ils vont se cacher. Là, la condamnation est déjà là, manifestée dans le cœur de l'homme. Mais la Bible nous dit ceci, que Dieu va faire des vêtements de peau de bête et il va revêtir l'homme. Ici, dans ce passage, si nous lisons tout le chapitre 3, nous découvrons l'entrée du péché et par voie de conséquence la condamnation dans la vie de l'homme. Et la Bible nous dit, en ce qui concerne la femme, qu'il va dire à la femme que, au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Je voudrais ici attirer notre attention sur le fait que le Seigneur va dire à la femme, « J'augmenterai tes souffrances pendant ta grossesse et tu enfanteras avec douleur. » Dans ce que le Seigneur vient de dire ici, il y a d'une part ce qu'on peut dire la malédiction ou la condamnation par rapport au péché accompli, fait, à l'acte accompli. Mais il y a également ici, dans ce qui est exprimé, déjà la prophétie concernant les douleurs de Christ pour enfanter cette nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont être recréés à l'image de Dieu. Frères et sœurs et amis, la Bible nous dit en ce qui concerne le Christ que alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané et qu'il était oppressé par la souffrance et par la douleur, il va crier vers Dieu, il va chercher le secours de Dieu, il va implorer Dieu d'une part de l'éloigner de lui cette coupe, mais d'autre part il va se reprendre pour lui dire, demander à Dieu de lui donner la force de vivre et d'accomplir sa volonté. Chers amis, frères et sœurs, notre naissance a coûté à Dieu. Et si cela a coûté à Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous. Vous le savez certainement, mais je vais le répéter quand même. Dieu vous aime, Dieu nous aime, et il nous a tant aimés au point qu'il a donné son Fils bien-aimé. Alléluia. Il va dire également ici, en ce qui concerne l'homme, que à cause de sa désobéissance, eh bien, le sol va être maudit et qu'il devra travailler et que ce sera à la sueur de son front qu'il va pouvoir se nourrir. Mais il est également dit ici, dans le verset 22, il est dit ceci, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Frères et sœurs, nous voyons dans ce passage, dans ce verset, également l'expression de l'amour de Dieu. Satan, qui est un être créé, parfait, c'est un être spirituel, qui vit dans la perfection, eh bien, on ne sait pas comment l'iniquité a trouvé place en son cœur. Néanmoins, il s'est révolté contre Dieu, si bien que Satan a été précipité. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et Satan sait qu'il est condamné. Mais ici, dans ce passage, le Seigneur va empêcher l'homme de prendre de l'arbre de vie et de vivre éternellement pour ne pas vivre cette même condamnation que l'ennemi de notre vie. Frères et sœurs, si Dieu a empêché l'homme de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement, ce n'est pas pour qu'il vive éternellement dans le péché, mais c'est afin de ne pas subir la même condamnation que le diable. Ainsi, Dieu ici déjà exprime son désir de se réconcilier avec l'homme. Nous voyons également dans ce passage de Genèse chapitre 3 que Dieu va dire à Satan que la postérité de la femme lui écrasera la tête. C'est là la malédiction, mais aussi la prophétie sur sa défaite et sa destruction finale. Frères et sœurs, ainsi par la désobéissance d'Adam et Ève, nous sommes devenus des pécheurs. Donc, sous la condamnation. Pour nous amener peut-être à comprendre cela, je veux dire ceci, que un homme et une femme de race chinoise, par exemple, s'ils doivent enfanter des enfants, ils vont enfanter des Chinois. Même s'ils sont en France, même s'ils sont en Amérique, ou partout dans le monde, les enfants qu'ils vont enfanter seront des Chinois. Pour nous amener à comprendre que l'héritage de la condamnation nous vient de la désobéissance d'Adam. Mais il faut comprendre aussi une autre chose. Ça veut dire ceci. Voyez-vous, si Adam n'a pas existé, eh bien, nous non plus, nous n'existerons pas. Voyez ? Si votre grand-père n'a pas existé, votre existence ne sera pas. Voyez ? Pour nous amener à comprendre que nous héritons de nos premiers parents. Et que on soit d'accord ou pas d'accord, ou on se dit si on était à la place d'Adam et d'Ève, on ferait mieux. Ça ne change rien au problème. Nous sommes sous la condamnation, sous la malédiction. Mais Dieu, dans ces derniers temps, au travers de Jésus-Christ, il va dire, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et quelle est donc cette bonne nouvelle? Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8. Voilà, gardez la page du Romains chapitre 8. Je voudrais lire pour vous des passages qu'on connaît. Hein. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. C'est ce qui fait que cette privation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, fait que nos actes, nos sentiments, nos émotions, tout ce que nous faisons, va à l'encontre de la vie de Dieu. Romains chapitre 6 également, et le verset 23, dit ceci, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà. Il dit, tous ont péché. Et du fait que tous ont péché, le péché, la conséquence, le salaire, la rémunération du péché, c'est la mort. C'est la condamnation. Mais il dit également, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous voyons par là que Dieu nous parle de la condamnation qui pèse sur l'homme, mais il est en train de nous dire également, ne restez pas dans la condamnation. J'ai déjà prévu le moyen d'en sortir. J'ai mis devant toi la vie éternelle en Jésus-Christ. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Frères et sœurs, Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Dieu déclare depuis 2000 ans, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ? Colossiens, s'il vous plaît. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes ou sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous comprenons par là, frères et sœurs. Il dit, il habite en lui toute la plénitude de la divinité. Nous comprenons lorsque, au travers de ses écrits, Paul va dire ceci, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Ça veut dire que toute la divinité était présente en Christ. Et nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est par lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous sommes en train de lire l'accomplissement de ce que Dieu déclarait déjà dans le jardin. C'est-à-dire la destruction du diable et de ses œuvres, la victoire sur le diable et sur ses œuvres, mais également la victoire sur la condamnation qui pèse sur nous. Nous l'avons lu tout à l'heure en début que c'est Dieu qui a revêtu Adam et Ève avec des vêtements faits de peau de bête. Voyez ? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà là dans le jardin d'Éden sacrifice pour que l'homme soit revêtu de sa nudité. C'est déjà là l'image du sacrifice de Christ. Frères et sœurs et amis, il y aurait beaucoup de choses à lire là-dessus, mais nous l'avons vu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde doit savoir, devrait savoir, parvenir à savoir et à connaître qu'il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Celui qui croit au sacrifice de Christ est libéré de la condamnation. Frères et sœurs, le salut de l'humanité, la délivrance des hommes, la victoire sur le monde du péché, sur le monde du diable, ce n'est pas une œuvre de l'homme, ce n'est pas une œuvre de la religion. Quel que soit, c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'accomplit. Lorsque Dieu va dire aux disciples, Jésus va dire aux disciples qu'il est difficile il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, la réaction aura été de dire, Mais qui peut donc être sauvé? Et le Seigneur répondra, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Pour nous signifier, nous faire comprendre que l'œuvre du salut, l'œuvre de la délivrance, c'est une œuvre de Dieu seul. Nous ne pourrons jamais être sauvés par nos forces, par nos œuvres ou par quoi que ce soit. C'est un don de Dieu. La seule possibilité pour nous, la seule façon pour nous d'en bénéficier, c'est de croire. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Dieu ne nous demande pas de mériter. Chercher à mériter, c'est passer complètement à côté. C'est le don. Et voyez, un don, c'est quelque chose qui est gratuit. Mais il dit encore, le don gratuit. Pour nous amener à comprendre qu'il n'y a rien à payer. Tout a déjà été accompli. Amen. Frères et sœurs, je voudrais poursuivre un petit peu quelques instants pour qu'on comprenne une chose. Sur le pardon des péchés. La Bible nous dit ceci, que Christ, pour nous amener à comprendre cela, dans la loi de Moïse, dans la loi hébraïque, le souverain sacrificateur, chaque année, eh bien, il offre un sacrifice pour lui et pour le peuple, et le sang, il entre dans le lieu très saint, avec le sang de la victime, il amène devant le propitiatoire qui est sur l'arche de l'Alliance. Et là, sur le propitiatoire, il dépose le sang pour signifier qu'il y a eu une victime pour le pardon de ses péchés et pour le pardon du péché du peuple. Et la Bible nous explique et nous amène à comprendre que lorsque Dieu regarde le sang, il est satisfait par la victime et ainsi sa justice est accomplie. Mais que cela est renouvelé tous les ans. Tous les ans, une fois, le souverain sacrificateur le fait, jusqu'à ce que Christ soit venu. Et la Bible nous dit que Christ n'est pas entré dans un tabernacle fait de mains d'homme, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître devant la face de Dieu, non avec le sang des boucs ou des agneaux, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un pardon éternel. Ceux qui voudront lire, c'est Hébreux chapitre 9, verset 24. C'est pour nous amener à comprendre que Christ, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire de Dieu, il est entré avec son propre sang. Et lorsque Dieu, nous comprenons que lorsque Dieu regarde le sang de Christ, il est satisfait, sa justice est accomplie, le pardon est accordé aux hommes. Frères et sœurs. Et lorsque nous avons cru en Christ, lorsque nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Amen. Et ainsi, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est la seule chose qui satisfait la justice de Dieu, c'est le sacrifice de Christ, c'est le sang de Christ. Ainsi donc, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a un autre point que je voudrais développer avec vous. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Mais on constate que lorsqu'on a été pardonné, réconcilié avec Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a cette vie nouvelle qui se manifeste dans notre vie, etc. On a l'impression qu'on voudrait saisir tous les passants pour leur dire « Est-ce que vous savez que Christ est mort pour vos péchés ?» etc. Mais au bout de quelque temps, on se rend compte, frères et sœurs, qu'on veut faire le bien, mais on a l'impression qu'on a toujours envie de faire le mal. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, frères et sœurs, je crois qu'on est tous confrontés à la même chose. Et Paul va le dire également. Si bien que il va dire, je veux faire le bien et je fais le mal que je ne veux pas. Je constate que là, dans mon corps, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu. Et pourtant, Paul, il s'est converti déjà. Voyez? Et quand il écrit ces choses, il était certainement déjà en mission. Il écrit aux Romains. Vous pouvez regarder cela dans Romains chapitre 7. Ceci pour nous amener à comprendre une chose. C'est que Dieu nous a pardonnés par le sang de Christ. Néanmoins, il y a un problème qui se pose. Le péché est toujours là. Et il continue d'agir dans notre vie. Voyez? Le Seigneur a pardonné nos péchés, c'est-à-dire ce que nous avons commis. Néanmoins, notre la nature pécheresse est toujours présente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Voilà. Ceci explique, frères et sœurs, les luttes et les combats que nous pouvons avoir les uns et les autres. C'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, les réalités spirituelles qui se trouvent dans l'œuvre de la croix. Voyez? Parce que bien souvent, on s'arrête au pardon des péchés. Mais l'œuvre de Christ ne s'arrête pas seulement au pardon des péchés. L'œuvre de Christ va à la racine, la destruction du péché. Pour comprendre cela, frères et sœurs, je vais vous poser une question. Je vous demande de me la répondre. Quand est-ce qu'un homme peut-il réellement arrêter de pécher? Qu'on est sûr qu'il ne va plus pécher? Quand il meurt, voyez? Quand il meurt, il ne peut plus commettre de péché. Voyez? Donc la solution, frères et sœurs, c'est que l'homme meure. Et c'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, lorsque le Seigneur dit ceci, « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Voilà. Vous comprenez, frères et sœurs, nous comprenons. Enfin, en tout cas, je l'ai compris et j'essaie de vous expliquer ce que j'ai compris. Voilà. Nous comprenons, frères et sœurs, que la mort de Christ, eh bien, Christ est mort pour le péché et il vit pour Dieu. Et nous, nous l'avons lu tout à l'heure, lorsque nous nous engageons par les eaux du baptême, nous sommes en train de confesser que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Voilà, nous le confessons. Sauf que ce n'est pas la réalité dans notre vie. Voyez? Je ne suis pas en train de dire que notre confession n'est pas vraie. Je crois que lorsqu'on confesse par les eaux du baptême, on exprime vraiment notre désir d'appartenir, de marcher avec Dieu. Cependant, il y a un souci, il y a un problème qui est là. Il faut, Dieu a déjà prévu la réponse. Vous voyez? Et la réponse se trouve dans le fait que Dieu a pris la forme humaine, le même corps que vous et moi. Frères et sœurs, je vais revenir un petit peu en arrière pour nous expliquer cela, que si nous sommes nés pécheurs, c'est à cause de nos premiers parents. Cela nous est transmis, voyez? Et cette vie nouvelle, pour que nous l'ayons, il faut pour une nouvelle vie, il faut une naissance, voyez? Voilà. Et c'est le Seigneur qui l'explique cela à Nicodème, hein? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut naître de nouveau, voyez. Mais pour naître de nouveau spirituellement, il faut qu'il y ait au préalable la mort. Voyez. Et le Seigneur l'explique en disant que si le grain ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il va produire du fruit, donner plusieurs grains. Voyez. Voilà. Et cela, le Seigneur lui-même l'a vécu. Voyez. Je n'aurai pas le temps ce soir de m'étendre et d'expliquer tout ça, mais c'est pour dire ceci que si Dieu a condamné le péché dans la chair, Christ a pris sur lui nos péchés. Et par sa mort à la croix, frères et sœurs, avec Christ, nous sommes morts au péché. Voyez ? Voilà. Ce n'est pas une question d'intellectualisation de la chose, c'est une question de foi. Il faut croire que lorsque Christ est mort à la croix, je suis mort avec lui quant au péché. Voyez ? Ce n'est pas une question de faire des efforts. Paul dira lui-même, j'ai été crucifié avec Christ. Quand j'ai lu les premières fois ce passage, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a fait ? Il a dû faire un effort intellectuel, je ne sais pas. Jusqu'à ce que je comprenne que ce que Paul il est en train de déclarer, c'est la réalité de ce que nous devons vivre. Que nous avons déjà été crucifiés. C'est déjà fait. L'acte a déjà été accompli. Mais pour en obtenir les bénéfices, il nous faut croire. Voyez ? Bien sûr, la chair voudra toujours se manifester. Voyez ? Mais il faut qu'on confesse dans notre vie cette victoire. Parce qu'elle est déjà remportée une fois pour toutes. Voilà. C'est pour nous expliquer que le sang de Christ, c'est pour le pardon de nos péchés. La victoire de la croix, le Christ crucifié, eh bien, vous et moi, nous sommes crucifiés avec Christ. Celui qui a cru en Christ, il est crucifié avec lui. Ainsi, la Bible nous dit, nous devenons une même plante avec lui. Et comme nous avons part à la mort, à la crucifixion, nous pouvons ainsi avoir part à la résurrection de Christ et à vivre cette nouvelle vie en Christ. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. C'est important que nous sachions les vérités en ce qui concerne la croix. Parce que souvent, on s'arrête uniquement au pardon des péchés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis, il y a bien d'autres réalités qui sont manifestées par les unes après les autres, puisque Christ est mort une seule fois. Mais dans cette œuvre de crucifixion et de mort et de résurrection de Christ. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Colossiens, nous avons tout pleinement en lui. Frères et sœurs, ne demeurez plus dans la condamnation. Voyez ? L'ennemi ne veut pas que nous sachions quelles sont les réalités de la croix. Parce que ce sont les réalités de la croix qui ont mis terme à l'action de l'ennemi. Voyez ? Le péché, il œuvre tant que la chair est vivante. Voyez ? Si la chair n'a pas été crucifiée, eh bien, il agit dans la chair. Mais une fois que la chair est crucifiée, et c'est ce que nous devons croire et confesser, que nous sommes morts avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir ni d'autorité sur nous. De même que l'ennemi, nous l'avons lu tout à l'heure, Christ a été victorieux à la croix. Il l'a dépouillé de toute autorité, de toute puissance. Nous n'avons plus à avoir peur du diable. Voyez ? Le diable n'a pas de pouvoir sur nous tant que nous connaissons et confessons. Parce que vous voyez, l'action, le diable, il agit par le biais du péché. Et le péché agit dans la chair. Voyez ? Mais tant que nous confessons que nous sommes morts au péché, crucifiés avec Christ, le diable n'a plus de moyen d'action. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, pour avoir action, pour avoir force et autorité sur l'homme, il a fallu qu'il entraîne l'homme dans le péché. Là, il a pu asservir l'homme. Mais lorsque nous croyons au sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du pouvoir et de son autorité, parce que toutes choses sur lesquelles il agit, Christ a déjà triomphé. Amen. Frères et sœurs, je voudrais qu'on termine par cette dernière lecture. J'aurais beaucoup de choses, mais bon, on va terminer par cette dernière lecture. Hébreux chapitre 10, verset 15, il dit ceci. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen.